puissance publique et accumulation du capital au XXIe siècle. Prenons maintenant un peu de recul par rapport aux enjeux immédiats de la construction européenne et posons-nous la question suivante. Dans une société idéale, quel serait le niveau souhaitable de dette publique? Disons-le d'emblée, il n'existe pas de certitude absolue à ce sujet. Et seule la délibération démocratique peut permettre de répondre à cette question en fonction des objectifs que se donne une société et des défis particuliers auxquels elle fait face. Ce qui est certain, c'est qu'il est impossible d'apporter une réponse sensée si l'on ne pose pas par la même occasion une question plus large. Quel est le niveau souhaitable de capital public et quel est le niveau idéal de capital national dans son ensemble ? Dans le cadre de ce livre, nous avons étudié de façon détaillée l'évolution du rapport capital-revenu-bêta à travers les pays et les siècles. Nous avons également examiné comment le rapport bêta de long terme était déterminé par le taux d'épargne et le taux de croissance du pays en question au travers de la loi bêta égale S sur G. Mais nous ne nous sommes pas encore posé la question du rapport bêta souhaitable. Dans une société idéale, devrait-on disposer de 5 années de revenu national en stock de capital, ou bien de 10 années ou encore de 20 années? Comment réfléchir à cette question? Il n'est pas possible de donner une réponse exacte. Mais on peut fixer, sous certaines hypothèses, une borne maximale à la quantité de capital que l'on peut a priori envisager d'accumuler. Ce niveau maximal consiste à accumuler tellement de capital que le taux de rendement du capital R, supposé égal à sa productivité marginale, tombe au niveau du taux de croissance G. Si on la prend au pied de la lettre, cette règle R égale G, qui a été baptisée règle d'or de l'accumulation du capital par Edmund Phelps en 1961, impliquerait un stock de capital beaucoup plus élevé que ceux observés tout au long de l'histoire, puisque, comme nous l'avons vu, le taux de rendement a toujours été nettement supérieur au taux de croissance. L'inégalité R supérieure à G a été particulièrement massive jusqu'au XIXe siècle, avec un rendement de l'ordre de 4%-5% et une croissance inférieure à 1%, et le sera probablement de nouveau au cours du XXIe siècle, avec un rendement moyen toujours autour de 4-5% et une croissance à long terme sans doute guère supérieure à 1,5%. Il est très difficile de dire quelle quantité de capital il faudrait accumuler pour que le taux de rendement s'abaisse à 1% ou 1,5%. Il est certain qu'il faudrait bien davantage que les 6-7 années de revenu national observées actuellement dans les pays les plus intensifs en capital. Peut-être faudrait-il accumuler l'équivalent de 10-15 années de revenu national en capital, peut-être davantage. Pour que le taux de rendement s'abaisse au taux de croissance minuscule observé avant le XVIIIe siècle, moins de 0,2%, il est difficile d'imaginer ce que cela pourrait représenter en termes de rapport capital-revenu. Peut-être faudrait-il avoir accumulé l'équivalent de 20 ou 30 années de revenu national en capital, de façon que chacun dispose de tellement d'immeubles et de maisons, d'équipements et de machines, d'outils de toutes sortes, pour qu'une unité supplémentaire de capital rapporte moins de 0,2% en production supplémentaire annuelle. À dire vrai, la question ainsi posée est sans doute trop abstraite, et la réponse apportée par la règle d'or n'est en pratique pas très utile. Il est probable qu'aucune société humaine n'accumulera jamais autant de capital. La logique qui sous-tend la règle d'or n'est pourtant pas sans intérêt. Résumons-la brièvement. Si la règle d'or R égale G est satisfaite, alors par définition cela signifie que dans le long terme, la part du capital dans le revenu national est exactement égale au taux d'épargne de l'économie, alpha égale S. Inversement, tant que l'inégalité R supérieure à G est vérifiée, cela signifie que dans le long terme, la part du capital est supérieure au taux d'épargne, alpha supérieur à S. Autrement dit, pour que la règle d'or soit satisfaite, il faut avoir accumulé tellement de capital que le capital ne rapporte plus rien. Ou plus précisément, il faut avoir accumulé tellement de capital que le simple fait de maintenir ce stock de capital au même niveau, en proportion du revenu national, exige de réinvestir chaque année l'intégralité de ce que rapporte ce capital. C'est exactement ce que signifie l'égalité alpha égale S. La totalité des revenus du capital doit chaque année être épargnée et ajoutée au stock de capital. À l'inverse, tant que l'inégalité R supérieure à G est satisfaite, cela signifie que dans le long terme, le capital rapporte quelque chose, dans le sens où il n'est pas nécessaire de réinvestir la totalité des revenus du capital pour maintenir au même niveau le rapport capital-revenu. On voit donc que la règle d'or s'apparente à une stratégie de saturation du capital. On accumule tellement de capital que les rentiers n'ont plus rien à consommer, puisqu'il leur faut tout réinvestir s'ils souhaitent que leur capital s'accroisse au même rythme que l'économie et conserver par là même leur statut social relativement à la moyenne de la société. À l'inverse, tant que R supérieur à G, il est suffisant de réinvestir chaque année la fraction du rendement correspondant au taux de croissance, G, et de consommer le reste, R moins G. L'inégalité R supérieure à G est le fondement des sociétés de rentiers. Accumuler suffisamment de capital pour que le rendement s'abaisse au niveau de la croissance peut donc permettre de mettre fin au règne des rentiers. Mais est-on bien sûr qu'il s'agisse de la meilleure méthode ? Pourquoi les détenteurs du capital, et pourquoi une société dans son ensemble, choisirait-il d'accumuler autant de capital ? En réalité, il ne faut pas oublier que le raisonnement qui conduit à la règle d'or permet uniquement de fixer une borne maximale, mais ne justifie nullement en général que l'on aille aussi loin. En pratique, il existe des façons beaucoup plus simples et efficaces permettant de combattre les rentiers, notamment par la voie fiscale. Nul besoin d'accumuler des dizaines d'années de revenus nationaux en stock de capital, ce qui exigerait peut-être de se priver pendant des générations. À un niveau purement théorique, tout dépend en principe des origines de la croissance. S'il n'existe aucune croissance de la productivité, et si la croissance provient uniquement de la population, alors aller jusqu'à la règle d'or peut avoir du sens. Par exemple, si l'on prend comme donnée le fait que la population va éternellement croître de 1% par an, et si l'on est infiniment patient et altruiste vis-à-vis des générations futures, alors la bonne façon de maximiser la consommation par habitant à long terme est effectivement d'accumuler tellement de capital que le rendement tombe à 1%. Mais on voit immédiatement les limites du raisonnement. Il est tout d'abord un peu étrange de prendre comme donnée une croissance démographique éternelle. Après tout, cela dépend tout de même des choix de fécondité des générations futures, ce dont les générations présentes ne sont pas responsables, sauf à imaginer une technologie contraceptive particulièrement peu développée. Par ailleurs, si la croissance démographique est elle aussi égale à zéro, alors il faudrait accumuler une quantité infinie de capital. Tant que le rendement est légèrement positif, il est toujours dans l'intérêt des générations futures que les générations présentes ne consomment rien et accumulent davantage. Selon Marx, qui suppose implicitement une croissance nulle pour la population comme pour la productivité, c'est ce à quoi aurait dû aboutir le désir d'accumulation infinie des capitalistes, d'où leur chute finale, conduisant à l'appropriation collective des moyens de production, de façon que ce soit l'État soviétique qui prenne en charge pour le bien commun l'accumulation sans limite de capital industriel et de machines toujours plus nombreuses. Sans que l'on sache d'ailleurs très bien où les autorités en charge de la planification doivent s'arrêter. D'une certaine façon, la règle d'or, interprétée à la mode soviétique, revient à transférer à la collectivité le désir d'accumulation infinie du capital prêté aux capitalistes. Dès lors que la croissance de la productivité est positive, le processus d'accumulation du capital est équilibré par la loi bêta égale S sur G. La question de l'optimum social devient alors encore plus difficile à trancher. Si l'on sait à l'avance que la productivité va croître éternellement de 1% par an, cela implique que les générations futures seront beaucoup plus productives et plus prospères que les générations présentes. Est-il bien raisonnable, dans ces conditions, de sacrifier notre consommation présente pour accumuler des quantités inouïes de capital ? Suivant la façon dont on choisit de comparer et de pondérer le bien-être des différentes générations, on peut parvenir à toutes les conclusions possibles. On peut conclure que le plus sage est de ne rien leur laisser du tout, sauf peut-être notre pollution, ou bien d'aller jusqu'à la règle d'or, ou n'importe quel point entre ces deux extrêmes. On voit là à quel point la règle d'or est d'une utilité pratique limitée. À la vérité, Le simple bon sens aurait dû nous suffire pour conclure qu'aucune formule mathématique ne va nous permettre de trancher la question éminemment complexe consistant à déterminer ce qu'il faut laisser aux générations futures. S'il m'a néanmoins semblé nécessaire de présenter ces débats conceptuels autour de la règle d'or, c'est parce qu'ils ont, en ce début de XXIe siècle, un certain impact sur le débat public, d'une part au sujet des déficits européens, et d'autre part, dans le cadre des controverses autour des conséquences du réchauffement climatique. Juridisme et politique. Tout d'abord, la notion de règle d'or a été utilisée, mais dans un sens tout à fait différent, dans le cadre du débat européen autour des déficits publics. En 1992, lors de la création de l'euro, le traité de Maastricht avait prévu que le déficit budgétaire ne dépasse pas 3% du PIB et que la dette publique totale reste inférieure à 60% du PIB. La logique économique précise, derrière le choix de ces chiffres, n'a jamais été totalement explicitée. À dire vrai, si l'on ne prend pas en compte les actifs publics et plus généralement l'ensemble du capital national, il est bien difficile de justifier rationnellement tel ou tel niveau de dette publique. La véritable raison derrière ces critères contraignants, dont on ne trouve pas d'autres exemples dans l'histoire, par exemple les parlements américains, britanniques ou japonais ne se sont jamais imposés de telles règles, a déjà été donnée plus haut. Cela découle presque inévitablement du fait que l'on a choisi de créer une monnaie commune sans État, et en particulier sans créer une dette commune et sans unifier le choix du niveau du déficit. En principe, ces critères deviendraient inutiles si le choix du déficit commun devenait l'affaire d'un parlement budgétaire de la zone euro. Il s'agirait alors d'un choix souverain et démocratique, et il n'existe aucune raison convaincante de contraindre a priori de tels choix, et encore moins d'inscrire de telles règles dans les constitutions. On peut certes imaginer, compte tenu du caractère encore jeune de cette union budgétaire en construction, que la confiance commune exige des règles spécifiques, par exemple sous forme de supermajorité parlementaire pour dépasser un certain niveau de dette. Mais graver dans le marbre un objectif intangible de déficit et de dette, au mépris des majorités politiques européennes futures, ne serait pas justifié. Que l'on me comprenne bien, je n'ai aucun goût particulier pour la dette publique, dont j'ai noté à plusieurs reprises qu'elle aboutissait souvent à favoriser des redistributions à l'envers, des plus modestes vers ceux qui ont les moyens de prêter à l'État et à qui il serait nettement préférable, en règle générale, de faire payer des impôts. Il existe depuis le milieu du XXe siècle et les grandes répudiations de dette publique de l'après-guerre, ou plutôt les grands ensevelissements dans l'inflation, beaucoup d'illusions dangereuses au sujet de la dette publique et des possibilités de redistribution sociale qu'elle offre qu'il me semble urgent de dissiper. Plusieurs raisons conduisent toutefois à penser qu'il n'est pas très judicieux de figer des critères budgétaires dans le marbre juridique ou constitutionnel. Tout d'abord, l'expérience historique suggère qu'en cas de crise grave, il est souvent nécessaire de prendre dans l'urgence des décisions budgétaires d'une ampleur impossible à imaginer avant la crise. Laisser à un juge constitutionnel ou à des comités d'experts le soin de juger au cas par cas de l'opportunité de telles décisions constituerait une forme de régression démocratique. En outre, cela ne serait pas sans risque. Toute l'histoire démontre en effet la fâcheuse tendance des juges constitutionnels à se lancer dans des interprétations extensives et hasardeuses, et généralement très conservatrices, des textes juridiques sur les questions fiscales et budgétaires. Ce conservatisme juridique est actuellement particulièrement dangereux en Europe, où l'on a souvent tendance à faire passer le droit absolu à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux avant celui des États à promouvoir l'intérêt général, ce qui comprend le droit de faire payer des impôts. De plus, et surtout, il faut insister sur le fait que le niveau de déficit ou de dette ne peut être correctement apprécié indépendamment de multiples autres paramètres affectant la richesse nationale. En l'occurrence, si l'on regarde l'ensemble des données disponibles, le fait le plus frappant est que le patrimoine national n'a jamais été aussi élevé en Europe. Le patrimoine public net est certes quasi nul, compte tenu de l'ampleur des dettes publiques, mais le patrimoine privé net est tellement élevé que la somme des deux n'a jamais été aussi élevée depuis un siècle. Donc, l'idée selon laquelle nous serions sur le point de laisser des dettes honteuses à nos enfants et petits-enfants, et que nous devrions nous couvrir la tête de cendres pour nous faire pardonner, n'a tout simplement aucun sens. Du point de vue de la véritable règle d'or, qui porte sur l'accumulation totale de capital national, la vérité oblige à dire que les pays européens n'en ont jamais été aussi près. En revanche, ce qui est exact, et pour le coup assez honteux, c'est que ce capital national est extrêmement mal réparti, avec une richesse privée s'appuyant sur la pauvreté publique, et avec notamment pour conséquence que nous dépensons actuellement bien davantage en intérêts de la dette que nous n'investissons par exemple dans notre enseignement supérieur. C'est d'ailleurs une réalité assez ancienne. Compte tenu de la croissance relativement lente en vigueur depuis les années 1970-1980, nous sommes dans une période historique où la dette coûte globalement très cher aux finances publiques. Voici la raison centrale pour laquelle il faut réduire au plus vite cette dette, au moyen idéalement d'un prélèvement progressif et exceptionnel sur le capital privé, et à défaut par l'inflation. Dans tous les cas, ces décisions doivent relever d'un parlement souverain et du débat démocratique.